Émilie, tu es avec nous ?
Tout à fait. Bonsoir, rebonsoir à toi, Annie. Bonsoir, Mélie. Tu es encore là ?
Mélie t'entend, mais de l'autre côté de la cloison.
D'accord. Et bonsoir à tous, évidemment. Je suis ravie de vous retrouver pour un croque-philo aujourd'hui consacré au conte. Alors, pas tout à fait au conte de Noël, mais le conte revêt des formes tellement variées et témoigne de tant de diversité culturelle qu'il peut capter l'attention des enfants comme celle des grands, et il peut nous apprendre ou nous faire comprendre des aspects du monde, nous faire rêver, se partager, tout en nous faisant voyager dans le temps et l'espace entre réalité et merveille. Mais vous vous demandez peut-être quel rapport avec la philosophie.
Je me pose la question.
On distingue des sous-catégories pour les contes, et on entend parler tantôt de contes de fées, tantôt de contes réalistes, initiatiques, fantastiques, vous vous rappelez peut-être de ce d'Hoffmann, horrifiques, érotiques, mais aussi philosophiques. Et nous devons le plus célèbre d'entre eux, le plus célèbre des contes philosophiques, à Voltaire, avec l'Ingénu, Zadig ou la Destinée, ou encore bien sûr Candide. Ce genre est né au XVIIIe siècle et au travers d'une histoire fictive, il critique la société ou le pouvoir en place et vise à faire entendre des idées dont la portée est philosophique. Ces récits mêlent la parodie à l'argument, mais gardent les codes du conte qui vont à la fois universaliser le récit en ne contextualisant pas directement l'époque grâce à des formules comme « il était une fois », la guerre encore. Et il va se construire comme les contes, avec une mise en jeu de personnages que nous accompagnons dans leur péripétie jusqu'à la fin de l'histoire, fin qui empruntera souvent à la fable sa visée morale. Donc la fable étant un autre genre littéraire, populaire déjà dès l'Antiquité grecque avec Ésope, et que Jean de La Fontaine, bien sûr, reprendra au XVIIe siècle, soit au siècle précédent, les lumières philosophiques contées de Voltaire. Cette forme donc de conte philosophique fut importante car en amont de la Révolution, elle a marqué la possibilité de la satire politique et sociale en limitant les risques pour leurs auteurs de procès, d'arrestation, de censure. Et on y retrouve les codes des récits merveilleux ou d'aventures, mais aussi de la caricature, de l'ironie, de l'humour noir. On trouve donc à l'aube de la Révolution de courtes fables ou des contes. Parfois pas très très évident de distinguer les deux parce que les récits voyageants étant retravaillés, reproposés dans l'histoire, parfois la fable courte et le conte peuvent un peu s'identifier l'un à l'autre. Et donc on a retrouvé ces récits qui constituent un support politique et destiné à éclairer le peuple et à mobiliser l'énergie révolutionnaire au XVIIIe. Parmi les auteurs de l'époque, il y a Sylvain Maréchal, qui était un républicain, admirateur des philosophes de Lumière, qui a publié un an avant la Révolution française, Apologue moderne à l'usage d'un dauphin, qui s'adressait, un petit recueil, qui s'adressait implicitement au fils du roi Louis XVI. Ses écrits ont été repris depuis par Marc Céasso, un auteur contemporain de littérature jeunesse, sous le titre « Petit conte pour une révolution ». Dans ce tout petit conte que je vous propose de lire, on retrouve les ingrédients du conte. L'île isolée, les temps immémoriaux des lignées familiales, patriarcales, le sage vieillard de la communauté contre la volonté d'autorité et de pouvoir de l'étranger, et la morale, souriante à la fin, qui renvoie à des temps qui courent encore. Ce petit conte est intitulé, tout petit conte, le contrat social. Plusieurs familles habitaient une île isolée. Cloîtrée dans son domaine, chacune se gouvernait elle-même sous l'œil du plus ancien des pères. Un jour, un étranger échoua sur la côte de cette île. Après l'avoir parcouru de long en large, il parvint à rassembler les chefs de famille et leur tint ce discours. « Mes amis, vos enfants et vous paraissez vivre heureux. Mais ce bonheur n'est qu'une illusion. À la première dispute, vos familles peuvent s'armer les unes contre les autres. À quel tribunal vous adresserez-vous pour régler ce conflit? Croyez-moi, vous avez besoin d'un souverain. Placé au-dessus de vos intérêts personnels, il dictera des lois justes qui vous permettront de dormir en paix. Mais ce souverain ne doit pas être désigné au hasard. Trouvez-en un qui vous soit étranger par le sang. Ainsi, vous serez certain de la partialité de ses décisions. Un vieillard interrompit le beau parleur. N'en dites pas davantage. Nous devinons le reste. Écoutez-nous, pardon, à votre tour. Nous avons vécu jusqu'à présent dans la plus grande harmonie. Cependant, votre avis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous n'avons rien à perdre à le suivre. Comme vous êtes le seul étranger, nous acceptons de vous prendre pour roi, à une condition. Laquelle? Étant responsable des lois que vous proposez, vous devez l'être aussi de tous les malheurs qui vous arriveront. En conséquence, vous paierez de votre tête le premier meurtre arrivé sous votre règne. Acceptez-vous? Le visiteur ne daigna pas répondre. Tournant les talons, il sauta dans la première barque venue et s'éloigna du rivage dans un jet d'écume. Certains prétendent qu'il rame encore. Alors, le conte philosophique demeure un genre, vous voyez, assez typé, propre à une période historique française assez délimitée en amont de la Révolution. Mais qui oserait dire que Le Petit Prince de Saint-Exupéry, traduit dans plus de 300 langues différentes, ou le récit d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll n'ont pas de portée philosophique? On a déjà d'ailleurs fait un petit clin d'œil au Petit Prince dans une chronique précédente. La philosophie n'excède pas, ne déborde-t-elle pas de cette forme de conte dit philosophique pour se retrouver finalement dans d'autres, si ce n'est dans toutes les formes du conte qui, par essence, réunit invariablement le populaire et le merveilleux? Qu'y a-t-il au fond de commun entre un conte des frères Grimm, nous connaissons les frères Grimm qui ont été ces fameux collecteurs de contes en langue allemande au XIXe siècle, et un conte wolof ou mandingue d'Afrique de l'Ouest? On peut aussi se remémorer les contes qui ont compté pour nous, que l'on nous a contés. Pour moi, c'était Bambi, raconté par mon papa, qui faisait varier la fin régulièrement, pour la rendre souvent un peu moins triste. Et pour toi, Annie, quels sont les contes qui t'ont marqué ou que tu aimes?
Eh bien, là, comme ça, moi, ça me fait penser à l'histoire de Baba Yaga, la sorcière.
Oui.
Ou la Reine des Neiges. Mais je sais que j'ai des souvenirs comme ça de ces contes-là, mais je crois que je ne pourrais pas les résumer. Je regarderai ce
Baba
soir.
Yaga, c'est intéressant parce qu'on retrouve la légende de Baba Yaga à la base, qui est russe, et qui finalement, depuis une vingtaine d'années, je crois, ce conte-là a pris des formes différentes et c'est beaucoup partagé. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'ailleurs même des sortes d'adaptations à l'image. Que ce soit série ou autre, mais c'est un conte effectivement qui a continué à voyager ces dernières années.
Oui.
Alors j'imagine que nos auditeurs en ont tous un ou plusieurs qui les ont suivis dans leur enfance ou même à l'âge adulte. Hein. Parce que quels que soient les contes, ils révèlent une part d'universel et semblent receler les secrets qui nous parlent à tous du monde dans lequel nous évoluons. Tous se situent à la croisée de la légende pour l'aspect merveilleux, surnaturel, et du mythe en marquant la force de l'intemporalité de la nature des choses. Mais tous visent à transmettre du sens. Il y a donc avant tout de la transmission dans la tradition du conte. Et cette transmission, même avec l'écriture, fait évoluer le conte en fonction de l'époque, du public auquel il s'adresse, de la culture d'où il est issu. Mais c'est par l'oralité qu'il varie le mieux et qu'il a longtemps voyagé, et qu'il voyage encore. Les cultures où perdure la tradition du conte comme récit populaire d'initiation ou de tradition sont souvent celles où l'oralité n'a pas été totalement, d'ailleurs, engloutie par l'écriture. Dans les sociétés dites traditionnelles, de plusieurs régions d'Afrique, de Russie ou de l'Inde, le conte garde une place de choix dans l'éducation. Dans nos traditions plus locales, régionales, le collectage des récits a été plus marqué par le folklore. Par exemple, le breton, auvergnat ou provençal, hein, pour ne citer que les plus connus, pour expliquer les conditions de vie, les travaux de leurs habitants. Même si aujourd'hui, on assiste à une forme de renaissance du conte illustré, nous y reviendrons. Mais les contes ont toujours la volonté de saisir le monde par des images, que ce soit donc à l'oralité, avec l'oralité ou avec l'écriture. Et l'écriture elle-même, d'ailleurs, commence toujours par des images, partout dans le monde, puis c'est l'usage qui en détermine ensuite l'évolution du sens, comme l'évolution d'une langue. Pour Rousseau, d'ailleurs, ce n'est pas la raison qui fonde la langue et ses usages qui la fait évoluer, mais c'est bien les sentiments et les passions. On aurait donc moins besoin, selon lui, de la raison de mettre en image nos sentiments. Car comme le dit Rousseau dans l'origine des inégalités parmi les hommes, l'homme n'a pas commencé par penser, mais par sentir. Ce que les hommes comptent, racontent, c'est une morale, car ils y affichent les rapports sociaux qui sont les leurs. Le conte, quelle que soit sa langue, en ce sens exprimerait l'essence même de la parole, celle qui sert de révélateur de nos façons d'être au monde. Et cela, en cela, on peut dire que les contes pour enfants que nous connaissons bien, comme Cendrillon, Peter Pan, Blanche-Neige et bien d'autres, même s'ils ont été revisités par d'autres auteurs, jusqu'à Walt Disney, ont été tous inventés avant tout pour prévenir les enfants de la cruauté du monde. Ils ont d'ailleurs des fins terriblement glauques dans leur version originale. On ne connaît souvent que très rarement. Le conte donne à voir car il fait parler les images. Ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à l'heure du règne de l'image pour nos livres illustrés comme celles sur nos écrans de télé ou de cinéma, les contes tiennent encore une bonne place. D'ailleurs, nombreux sont les contes aujourd'hui qui cherchent à sensibiliser les enfants, à les aider à comprendre le monde fait par les hommes dans leurs différences de culture, d'identité. Ils répondent aussi souvent à leurs questions sur la mort, la sexualité, sans rationaliser, sans jugement. Le conte est donc aussi témoignage de culture. Et au-delà des langues, il se traduit, se transmet avec ses variantes. Il reste un bon moyen de connaître la culture d'un pays, un passé, des traditions. Mais la façon dont les habitants d'un pays font vivre leur conte varie également. Par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, et précisément en Scandinavie, la place du conte est plus grande que chez nous et toujours assez bien partagée dans la culture populaire. Elle y est enseignée à l'université comme une part de l'ethnologie avec les musiques, les danses du pays. Et l'ensemble de ces traditions est d'ailleurs encore vivante. Il y est souvent considéré, par exemple, que les livres pour enfants ne s'adressent pas exclusivement à eux, mais aussi aux adultes, qui sont nombreux à les collectionner. Ce genre littéraire, il est mieux reconnu que chez nous. Alors là, je mêle les contes traditionnels, populaires et les contes pour enfants, parce qu'il me semble qu'ils ont bien un usage commun, qui est celui de raconter la culture d'une société tout en l'animant. Dans les contes, on notera aussi que s'il n'y a pas toujours de figure du philosophe, il y a néanmoins toujours la présence du sage, incarné par l'un des personnages. Et la figure de la sagesse, dès l'Antiquité, peut être indifféremment celle du médecin, du sorcier, du magicien parfois. Il est celui qui soigne le corps ou l'âme. C'est aussi une constante dans les contes que cette figure du sage qui varie mais demeure. Il est celui qui porte les remèdes de la nature ou du bon sens, qui fait autorité morale en assimilant l'expérience à la connaissance. Dans les contes, l'expérience via le voyage, le déguisement, le déménagement, exprime souvent la transformation comme une expérience de dévoilement de la vérité. Ainsi, le conte serait une incitation par l'imaginaire à interpréter le réel et à se rapprocher d'une forme de vérité qui reste finalement assez ouverte, qui est proposée au regard et à l'écoute. On retrouve cette expérience de la vérité dans un second tout petit conte, extrait de Petit conte pour une révolution adapté par Marc Ciasso. Celui-ci Je vais vous lire, s'intitule « Le sage fou ». Et il témoigne justement de la vérité des hommes de pouvoir, ici des rois, qui se révèlent dans l'expérience de transformation et de dévoilement. Il y a bien longtemps de cela, un sage avait tenté d'introduire la vérité à la cour. Il n'y était jamais parvenu. Le fou du roi vint à tomber malade, sans espoir de guérison. Le sage s'avisa de prendre sa place. Il l'imita avec tellement de talent qu'il parvint à lui succéder dans sa charge. Mais la vérité ne gagna rien à ce déguisement. Dans la bouche de la sagesse, elle avait offensé le souverain. Et dans celle de la folie, elle l'amusait sans améliorer sa conduite. Désespéré, le sage abandonna son déguisement de fou et quitta le palais en grommelant « Il n'y a rien à faire, tous les rois sont incorrigibles. » Il est donc souvent entendu que la littérature peut changer, réinventer le réel. On entend souvent que la philosophie serait une démarche exclusivement rationnelle, qui ne saurait pas grand-chose de la sensibilité et prétendrait tendre vers une objectivité absolue de la réalité. Et je voulais partager pour terminer avec vous une citation qui me semble réconcilier ces deux visions autour du conte. C'est une citation d'un journaliste suédois du XXe siècle qui, après lecture des écrits du prince Guillaume de Suède, des écrits de conte qu'il a fait à partir de voyages en Afrique de l'Ouest, ce journaliste considère donc, je le cite, que les contes s'adressent à tous ceux qui aiment voyager dans le fantasque et qui ne sont pourtant remués que par le réel. C'est-à-dire une bonne façon pour les hommes qui sont remués, qui ont envie de connaître le réel, de mieux l'entendre, de mieux le comprendre, de finalement, par la fantaisie, l'imaginaire, se laisser la possibilité de le faire, sans pour autant être complètement dans la déréalisation des choses. Sur ce, je vous souhaite de bonnes écoutes, de belles lectures de contes durant cette propice saison d'hiver et bien sûr de très joyeuses fêtes de fin d'année.